Dieu bénisse notre frère Eric. Amen. Au nom de Jésus, que cette maladie régresse. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, puisque on est venu me dire que cette série de prédications sur la foi vous bénissait, alors je continue. On m'a dit, mais est-ce que tu vas encore trouver des choses? Il faut que Dieu m'en donne encore, parce que moi je ne crois pas que Dieu, que Jésus revient en 2006. Je dis ça pour embêter Simon. Alors, il faut absolument que je trouve l'inspiration, parce que encore au moins pour toutes les semaines de 2006 et encore après. Moi, je souhaite que Jésus revienne en 2006, mais je ne vois pas ça dans les Écritures et je n'ai pas de révélation particulière à ce niveau-là. Donc, je vis comme s'il revient dans 10 minutes, mais je construis comme s'il revient dans 50 ans. Amen. Que Dieu soit béni. Et dans la vie, il y a des étapes, il y a des niveaux, et c'est ce que je vous enseignais depuis trois prédications déjà au sujet de la foi. Un escalier, il vaut mieux le monter marche par marche. C'est vrai que quand on est jeune et plein de force, on peut courir dans l'escalier et sauter les marches. Mais dans la vie, il vaut mieux pas sauter les marches avec Dieu. Il vaut mieux aller doucement, monter les marches l'une après l'autre. Avec la foi, c'est comme ça aussi, niveau après niveau, afin d'avoir un bon équilibre. Et cela jusqu'à ce qu'on atteigne le niveau de la pleine mesure de la foi. On va lire Proverbe 8, 17 ensemble. 8, 17. Moi, c'est Dieu qui parle. Moi, j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me recherchent me trouvent. On peut lire encore après. Avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Mon fruit est meilleur que l'or pur et ce que je rapporte meilleur que l'argent de choix. Amen. Ceux qui aiment le Seigneur. Ceux qui aiment le Seigneur au plus haut degré peuvent recevoir tout ce qu'ils demandent. Tous les héros de la foi dont nous parle Paul, bon, je crois que c'est Paul qui a écrit la lettre aux Hébreux. Tous les héros de foi dont Paul parle dans Hébreux chapitre 11 ont aimé Dieu au plus haut niveau. Ils ont été remplis de joie, ils ont été remplis d'une gratitude sincère, même quand ils avaient à souffrir au milieu de leur souffrance. Pourquoi? Eh bien, mes frères et sœurs, parce qu'ils ne souffraient pas à cause du mal qu'ils avaient fait. Bonjour la guitare. Observez Daniel, par exemple. Daniel rendait grâce à Dieu avec une foi inébranlable, il priait, il se confiait entièrement à Dieu, alors qu'il sentait déjà l'odeur des fauves, quand on le poussait afin de le jeter dans la fosse aux lions, il devait être jeté en pâture là, il entendait les rugissements déjà, les grognements des lions, mais il se confiait en Dieu. Dieu était satisfait de cette foi et il a envoyé des anges pour fermer la gueule des lions. Après ça, Daniel a rendu grâce à Dieu. On peut lire ça dans Daniel 10, 10 à 27, vous direz ça chez vous. Et quand il devait être jeté dans la fournaise ardente avec ses amis, lui et ses amis, ils n'ont jamais cessé de confesser leur foi totale en Dieu. Écoutez Daniel, Daniel 17, non 3, 17, 18, il dit voilà. Voici le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Il dit ça, il le dit publiquement. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, ah, j'aime ce sinon. Sinon, sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, de toute façon, nous ne servirons pas tes dieux. Nous serons jetés dans la fournaise ardente et Dieu nous délivrera. Et tu seras bien obligé de reconnaître que Dieu est le seul vrai Dieu et tu abandonneras tes dieux et nous continuerons à servir notre Dieu. Sinon, nous cramerons, mais de toute façon, nous ne servirons pas tes dieux. Que ça veut dire. Mais ce sinon, j'aime beaucoup ce sinon parce que ça me montre, est-ce qu'ils étaient sûrs que Dieu allait les délivrer de la fournaise ardente?
Non.
Ils savaient très bien que Dieu n'était pas obligé de les délivrer de la fournaise ardente. Leur niveau de foi était plus élevé que simplement la foi de Seigneur, délivre-moi. Bien sûr, Dieu délivre. Bien sûr. sûr, Dieu guérit, bien sûr, Dieu nous sauve de toutes sortes de situations, mais il n'est pas obligé de le faire. Et celui qui est au niveau 4 de la foi, ceux qui n'ont pas encore entendu les autres prédications, vous allez sur Internet, vous les aurez. Quand on arrive à ce niveau de foi, alors, on sait que Dieu peut nous délivrer. Mais en plus, on sait que Dieu, qu'il nous délivre ou qu'il ne nous délivre pas, on restera agréable nous-mêmes. On restera agréable à Dieu. Vous savez que même si Dieu ne les délivrait pas, de toute façon, tout allait bien parce qu'ils étaient en communion avec Dieu. Ils étaient agréés de Dieu. Ils étaient agréables à Dieu. Leur foi, leur amour ne changeait pas. Ça, c'est la foi au plus haut niveau. Alors, sachant cela, ils ont confessé qu'ils étaient réellement prêts à mourir même au service de Dieu. Ils ont été fidèles. Fidèles. Dans le mot fidèle, il y a le mot fi. Fi, c'est un mot grec qui signifie foi. On retrouve le mot fi dans fiançailles. Mais nous allons le retrouver aussi dans confiture. Bien sûr. C'était pour vous faire rire un peu. Il y en a trois qui écoutent ce matin. On retrouve fi dans confiture. La foi fidèle. Quand vous avez la foi, vous êtes fidèle. Ils ne se sont pas plaints à Dieu, ni à personne. Ils ont confessé, voilà. Dieu peut nous sauver. S'il ne le fait pas, de toute façon, sache-le, sache bien que nous, on demeure avec notre Dieu qui ne fera jamais fléchir les genoux devant ton truc, machin, jamais. Ils adorent Dieu, mes frères. Ils savaient qu'ils allaient droit au ciel s'ils mouraient. Ils le savaient. Parce qu'ils savaient qu'ils étaient en ordre avec Dieu. C'est la foi. Au niveau. On va développer ça. Regardez Paul et Silas, par exemple. Paul et Silas, cruellement fouettés, jetés dans une prison. Est-ce qu'ils prient, Seigneur, délivre-nous, c'est pas juste. On est en train de prêcher ta parole, il n'y a déjà pas tellement de... Il n'y a pas tellement de gens qui vont prêcher ta parole, mon Dieu. Alors en plus, il faut qu'on nous fouette puis qu'on nous jette en prison. Mais tu fais quoi? Alors nous, on a fait notre boulot, on a fait ce que tu as dit. Puis toi, tu fais quoi? Alors tu ne nous protèges pas. Non. Ils souffraient injustement. Ils le savaient, ils ont été conscients. Pourquoi vous souffrez-vous? Pourquoi? À cause de vos péchés? Ou comme eux, injustement? Bien. Vous qui croyez que vos péchés et la peine de vos péchés, c'est-à-dire la mort, la punition, tout ça, que cela a été porté par Jésus, vous êtes sur le rocher. Vous êtes sur le rocher, vous êtes sur Jésus. Votre souffrance est injuste. Mais ne vous plaignez pas. Montrez votre foi au milieu de votre souffrance. Votre souffrance est injuste, pourquoi ? Le mal qui vous arrive n'est pas une punition due à vos fautes. Le mal qui vous arrive, puisque Jésus a porté la punition, ce n'est pas juste que vous soyez puni à cause de vos péchés. Donc ce qui vous arrive n'est pas une punition. C'est injuste, mais vous ne vous plaignez pas et vous comprenez le plan de Dieu et vous vous mettez à glorifier Dieu dans l'épreuve, dans la difficulté, dans l'injustice, dans toutes ces choses. Vous voyez le niveau différent, hein? Le niveau est différent, la foi doit grandir. Rappelez-vous ma première prédication à ce sujet-là. Regardez David, par exemple. À cause de la rébellion de son fils Absalom, voilà que David est détrôné. David fuit, il devient un SDF. Un jour, il y a un pauvre naze qui le maudit. Il s'appelle Shimei. Un des amis de David dit, David, est-ce que tu le crois-tu? Qu'est-ce que répond David? Laissez-le. Et qu'il maudisse. Car c'est l'Éternel qui le lui a dit. avait il y a une dizaine d'années, là, tu te rappelles, on l'appelait le dragon. On a bien rigolé, d'ailleurs, ça fait encore rire. Et David Dominique, il a souffert avec ce dragon. Hein. Il a été beaucoup humilié par cette bonne femme. Une horreur, cette bonne femme. Hier, avant-hier, j'ai dit, comment elle s'appelait, au fait, elle ne s'appelait pas dragon, comment elle s'appelait? Et on a tellement ri. On ne se rappelle plus comment elle s'appelle. Elle s'appelait Chinéi ou un truc comme ça. On s'en fout. Vous comprenez? On s'en fout de ces bonnes femmes. C'était un moment difficile. Bon, voilà, il l'a vécu, mais Dieu l'en a délivré. Et il a eu la bonne position. C'est-à-dire que tant qu'il était en train de le vivre, il était en train de se révolter contre Dieu. Oui, mais pourtant, voilà, moi j'ai renoncé à tout. J'ai tout donné. J'ai une vie dans la communauté. Résultat, je travaille avec un dragon. Non? Amen. Ça, c'est la foi. On a ri. Vous voyez, à chaque jour suffit sa peine. Vivez le moment présent, parce que de toute façon, la tempête qui vient, elle finira bien un jour par partir aussi. Et même, vous l'oublierez. Vous savez qu'on donne toujours une tempête les noms de femmes, vous avez remarqué. Est-ce que vous vous souvenez du nom de la tempête qui a eu lieu là, je ne me rappelle même plus de quelle année, c'était en 2000, non? Comment c'est? Combien? Une 99. C'est bien. C'était la fin de 99. Le 25 décembre, vous aurez les rancunes, ça me rappelle que tout. On se présente. David a toujours cru que Dieu lui voulait du bien. Toujours. Lisez ses psaumes, vous allez voir, c'était son état d'esprit. Même quand il semblait dans la défaite, en fuite, ou vite se cacher comme un pauvre minable. Il savait que Dieu lui voulait du bien parce qu'il avait compris la volonté de Dieu. Il avait compris la volonté de Dieu. Parce que David, il a compris la volonté de Dieu, alors ça l'a aidé à surmonter son épreuve. Et il est redevenu roi. Il est devenu un roi que Dieu aimait encore beaucoup plus. Toutes choses concouraient au bien de David parce que David aimait Dieu et parce que David était appelé selon son dessein. Est-ce que tu peux dire avec ton nom à la place du nom de David? Toutes choses concourent au bien de Michel parce que Michel aime Dieu et que Michel est appelé selon son dessein. Est-ce que tu peux dire ça avec ton nom? David, il connaissait le dessein de Dieu à son égard. Je connais le dessein de Dieu à mon égard. Le quatrième niveau de la foi, c'est l'amour, quoi qu'il arrive. Jésus a dit un jour, celui qui a mes commandements, nous les avons, ça là. Ça, il n'y a rien d'autre. Amen. Celui qui a mes commandements et qui les garde est celui qui m'aime. Et il continue. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Et tout le monde dit, il dit amen, mais pourtant c'est bête. Ou alors, il y a quelque chose qu'on n'a pas bien compris. Maintenant, écoutez bien. Si ce que je vous enseigne est faux, cette phrase est bête. Et si ce que je vous enseigne est juste, cette phrase est magnifique. Est-ce que vous avez bien entendu? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jésus se fait connaître à ceux qu'il aime. Comment Jésus peut-il se faire connaître à quelqu'un qui est en train de l'aimer? Tu aimes Jésus? C'est parce que tu le connais? Eh bien non. Eh bien non. Comment peut-on aimer une personne qu'on ne connaît pas? Nous aimons Dieu avec la foi qu'il nous a donnée. Quand nous nous sommes approchés de lui, c'est parce que déjà à la base, nous lui appartenions. Notre nom était inscrit dans le livre de vie dès avant la fondation du monde. Nous aimions les choses de Dieu, nous cherchions les choses de Dieu plus ou moins habilement, plus ou moins véritablement. Et même si on ne cherchait pas au fond de notre cœur, il y avait un soupir. Et Dieu s'est révélé à nous, il a mis la foi en nous, c'est la foi. Dieu n'accepte aucune sorte de foi sinon celle qu'il a mis lui-même en nous. D'accord? Et à partir de ce moment-là, nous avons la révélation qu'il était notre Père. Et comme un nourrisson, nous nous sommes mis à aimer notre Papa. C'est rigolo. Quand vous voyez les bébés, ils voient leur maman. Ils aiment leur Papa. Ils aiment es gagnant toujours, peu importe à quel niveau, même si c'est le niveau de la foi simplement que tu as reçu au début. Ça n'a pas encore germé, ça n'a pas encore crevé la terre pour atteindre la lumière, ça n'a pas encore été sur le rocher, etc. etc. Bon, il y a des niveaux, mais au premier niveau déjà, le bébé, il aime papa, même s'il ne les connaît pas. Moi, par exemple, 1974, j'ai dit oui devant M. le maire, je dis oui devant M. le pasteur Le Cossec, j'ai épousé la Michou. Je l'aimais dans mon lieu. Je la connaissais pas. Je la connaissais pas. Elle me surprend encore. Je l'aime plus maintenant qu'avant. Bon, j'ai vu aussi ses défauts, hein. Mais bon, des défauts que je ne connaissais pas non plus. Je la connaissais pas. Mais racontez-moi que vous connaissiez votre femme ou votre mari comme vous le connaissez aujourd'hui après 10, 15 ans de mariage ou 30 ans de mariage. Comme nous, ça fait combien? 32 ans de mariage. Ce n'est pas vrai que je la connaissais. C'est pas vrai. Je dis, putain, je l'aimais. Vraiment? Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Ton amour pour lui, il le mesure. Et selon la mesure que tu manifestes en œuvre, c'est-à-dire en action, selon la mesure que tu manifestes en action vis-à-vis de lui, eh bien, il se révèle de plus en plus à toi. Si tu ne l'aimes pas, si tu n'aimes pas ta femme, eh bien, voilà, c'est pas très mon enfant. Elle ne va pas se livrer, elle ne va pas s'ouvrir. Or, Jésus dit que si vous l'aimez, vous gardez ses commandements. Pour lui, l'évidence de votre amour pour lui, c'est que vous gardez ses commandements. Et lui, en retour, il vous montrera l'évidence de sa présence avec vous en toute situation. Le matin, tous les matins, nous avons un moment privilégié. La Michou et moi, nous parlons ensemble. Il nous sert un petit café, un petit machin, un tome de Suisse. Au lit, je suis bien là, tranquille. Et puis elle s'assied en face. Et puis, elle me parle de vous, elle me parle de tout ce qu'elle va faire dans la journée. Puis je dis oui. Et de temps en temps, j'en place une et on parle ensemble. C'est un moment privilégié. Tous les jours, nous faisons ça à peu près une heure. Nous parlons ensemble. Imaginez que pendant qu'elle me parle, tout à coup, je me mette à dormir. Ou que je commence à regarder ma montre, ou que je commence à regarder dehors, pendant qu'elle me parle. Frères et sœurs, si vous aimez votre Dieu, vous vous tenez éveillé quand il parle. Et vous vous éveillez quand vous savez qu'il va parler. Vous faites attention. Vous montrez un vif intérêt. Si vous montrez pas, si je ne montre pas un vif intérêt, si ma femme ne montre pas un vif intérêt dans ce que je dis, j'arrête de dire, c'est tout. Je trouve quelqu'un d'autre pour dire. Oui ou non? C'est comme ça. Si tu ne m'écoutes pas, je vais trouver quelqu'un d'autre. Tu m'écouteras. On a besoin de parler, on a besoin de communiquer parce que ça, c'est l'amour. Ça passe comme ça. Si Dieu voit votre vif intérêt, il va vous révéler des choses qu'il ne dira pas à ceux qui l'écoutent d'une façon distraite ou non disciplinée, qui ne viennent pas au rendez-vous. Et Alain est venu dans mon bureau hier soir, il m'a dit on était tous les jours chez Marc à l'heure, et à l'heure, et tout ça. C'est une chose, ça se remarque, un patron remarque une chose comme ça. Quelqu'un remarque quelque chose comme ça, on va faire confiance à un ouvrier qui travaille comme ça, mais l'ouvrier qui vient comme ça, lui plaît. Aujourd'hui, je ne me sentais pas poussé à aller travailler. Ah bon? C'est la même chose avec Dieu, les rendez-vous qu'il nous fixe. Quand on aime une personne, on fait attention à savoir si ça lui plaît ou ça ne lui plaît pas. Moi, si j'arrive demain vers ma femme et que je lui offre de l'eau Saint-Michel, elle va dire, qu'est-ce que tu fous de moi, quoi? Vous comprenez? Un peu comme Caïn, quand il a offert son sacrifice, c'était pas ça. C'était pas ça. Il s'était pas renseigné pour savoir ce que Dieu aimait. Ça, c'est l'amour. C'est pas l'obéissance parce que c'est écrit. C'est pas l'obéissance à une loi. Voilà, c'est écrit, alors je le fais parce que c'est une loi. Ça, c'est plus une loi. Bien sûr que c'est une loi. Mais c'est plus une loi, c'est l'amour qui fait qu'on fait les choses. Et non pas, on ne les fait pas par obligation, c'est écrit, donc je le fais, on doit le faire, alors on le fait, bon, c'est difficile. Bon. 1 Jean 5, 3 nous rappelle, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. C'est pas pénible quand ça n'est pas une loi. Quand les commandements de Dieu ne sont pas une loi, ça n'est pas pénible. Quand les commandements de Dieu, quand on s'y soumet, quand on fait sa volonté par amour, ça n'est pas pénible. Mais on est prêt à tout par amour. Quelqu'un, même à téléphoner depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis n'importe où, au téléphone, oui mon chéri, je t'aime, et toi, oui, tu m'aimes aussi, ah, je t'aime, oh, c'est formidable, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ben, j'étais promener le chien, puis j'ai vu un chien, puis toi, qu'est-ce que tu as fait? Ah, ben, on a eu une bonne réunion, puis on parle, nous on aime tellement, on pense pas, ça coûte cher, quelle horreur, vous comprenez? Bien sûr, on pense quand même un petit peu à ça, mais quand on aime, on compte pas, comme on dit. Si, un petit peu quand même, parce qu'il faut faire attention. Mais vous voyez ce que je veux dire, les frères et sœurs. Ça n'est pas pénible. Quand Mélodie était un nourrisson, alors elle était dans notre chambre, elle n'est plus dans notre chambre, hein, maintenant. Elle dort. Pas où elle dort. Quand elle était un nourrisson, elle était couchée, là, elle était avec son petit berceau, puis j'entendais comme ça. Ça me réveillait. Je sortais en bas du lit, j'allais vite regarder. Ça, c'est de l'amour. Parce qu'il n'y a rien qui peut me le faire lever à 3h du matin si ce n'est pas l'amour. Il n'y a rien. C'est pas vrai, c'est pas possible. Et à 5h30, c'est la même chose. Oh, voilà. Ensuite, Jean nous dit, on va lire 1 Jean 3, 21-22. 1 Jean 3, 21-22. 1 Jean 3, 21-22. Je n'ai pas l'habitude de cette Bible, mais j'essaie de m'habituer avec elle. 1 Jean 3, 21-22. Parce que l'autre, elle tombe vraiment en douleur. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevrons de lui, parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Si un menteur, c'est moi, c'est vous, mais ce n'est pas Dieu. D'accord? Alors, votre cœur ne vous condamne pas lorsque vous êtes agréable à Dieu. Oui, mais je n'ai pas été trop agréable, là, j'ai péché. Oui, mais si tu veux continuer à être désagréable à Dieu, ne crois pas que Jésus a porté ce péché à la croix. Alors là, tu seras vraiment encore plus désagréable à Dieu. Par contre, si tu as péché et que tu veux être agréable à Dieu, viens vers lui, confesse-lui ta faute, crois qu'il t'a pardonné, crois qu'il a porté ce péché il y a 2000 ans et tu retrouves sa faveur. Amen. Ah oui. Votre cœur ne vous condamne pas lorsque vous êtes agréable à Dieu. Et vous êtes agréable à Dieu quand vous gardez ses commandements par amour pour lui. Et vous recevez ce que vous demandez. Dieu le promet. Il ne ment pas. Il ne change pas d'avis. Il accomplit tout ce qu'il a dit et tout ce qu'il a promis. Nombre 23, 19. Nombre 23, 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'Adam pour avoir du regret. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne le maintiendra-t-il pas? Ça donne de l'assurance. Mais ce qui donne de l'assurance, c'est quand notre cœur ne nous condamne pas. Quatrième niveau de votre foi, vous vivez la parole. Elle est plus qu'un livre de loi. Elle vous enseigne comment plaire à Dieu, que vous aimez. Et de tout votre cœur, vous cherchez toujours, mais qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire à Dieu? Et les œuvres de soumission à votre époux, à votre Dieu, suivent cette question. Parce que vous l'aimez au plus haut point. Quand vous vous demandez qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire à Dieu, ça vient tout de suite. Demandez-vous par exemple, qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à mes frères et sœurs dimanche à l'heure de l'apéritif? Ça vient tout de suite la réponse, non? Ou alors vous êtes un abruti, je ne sais pas moi. Il faut vous inscrire à abruti.com. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes frères et sœurs? N'importe quel... Vous allez voir, c'est que vous aimez, ça vient tout de suite la réponse. Qu'est-ce que je pourrais faire pour mes frères et sœurs à l'heure de l'apéritif le dimanche matin? Ben, je pourrais descendre en tutu, ça ferait plaisir. Mais non, ce n'est pas ça la réponse, vous êtes d'accord? Est-ce que c'est la réponse? C'est quoi la réponse? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va me dire que c'est la réponse? Acheter une bonne bouteille, voilà. Pas seulement venir pour la boire, d'accord? Puis ça nous fait plaisir aussi que vous venez la boire avec nous. Mais on aime bien aussi quand vous en apportez une, non? Qui c'est qui aime bien? Alors faites aux autres ce que vous voulez qu'on vous fasse, voilà. Vous voyez? C'est simple la parole de Dieu. C'est pas compliqué. Comme disent les Suisses, ceux qui écoutent ce message sur Internet, ils ont fait ce qu'ils sont charnels dans cette communauté, ils boivent l'apéritif. On était en Suisse l'autre jour, on était mangé, c'était l'anniversaire, Alain et Thierry étaient là, c'était l'anniversaire de Cathy, et on a vu que le pasteur, vous avez vu ça, ce que vous avez vu quand on est arrivé dans le village, ils étaient sortis de l'église, et il y avait une belle table, il y avait des apéritifs, et tout le monde buvait sa petite coupette. Là, je dis, il n'y a pas que nous, là, le pasteur protestant, là, super. Et pourtant, ils n'étaient pas chaud hein, dehors, mais ils étaient tous là pour la petite coupette. Il n'y a pas que Danone hein, qui fait lever les gens. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire pour faire plaisir à Dieu, pour faire plaisir à mes frères et sœurs? Les œuvres de soumission à votre Dieu, elles sont toujours suivies d'une action, c'est obligé. À ceux du quatrième niveau, la prospérité à tous égards est promise, selon 3 Jean 1, 2. On va dire 3 Jean 1, 2. Il y a beaucoup de lectures hein, ce matin. 3 Jean 1, ça vous plaît aussi ou pas? 3 Jean 1, 2. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère ton âme. Vous prospérez à tous égards et êtes en bonne santé comme prospère à la même mesure que votre âme prospère et est en bonne santé. Celui qui veut descendre en tutu à l'heure de l'apéritif pour plaire à ses frères et sœurs, c'est que son âme n'est pas en bonne santé. Si votre âme prospère, vous êtes le gérant de tout. Vous prospérez, vous gérez tout parce que votre âme est renouvelée, votre intelligence est renouvelée par le Saint-Esprit, alors vous prospérez en tout parce que Dieu l'intelligence vient de Dieu. Au quatrième niveau, non seulement votre vie elle est sur le rocher, mais votre vie elle s'identifie au rocher, c'est-à-dire elle s'identifie à Jésus, c'est-à-dire elle s'identifie à la parole. Vous devenez la parole. Vous savez quelle parole nous sommes? Nous sommes acte 2, acte 4. Nous sommes psaume 133. Nous sommes ces paroles charnelles, vivant dans la chair, incarnées. Nous sommes ces paroles incarnées, pas seulement ça. Nous sommes aussi 1 Corinthiens 15, 29, 19, je ne sais plus. Nous sommes toutes ces paroles incarnées. C'est nous. Nous sommes identifiés à cela. Pas seulement ces versets que j'ai dit, mais beaucoup d'autres, mais en particulier par rapport à d'autres milieux chrétiens. Nous sommes destinés à cela sur la terre. Nous le savons, c'est notre... comme David, nous connaissons la providence, nous connaissons la destinée que Dieu nous réserve. Vous êtes spirituel, c'est-à-dire que vous êtes des gens qui travaillent avec l'esprit et non pas simplement avec vos réflexes. Vous devenez maître quand vous êtes à ce niveau-là. Jésus dit, le Saint-Esprit, un des résultats du Saint-Esprit dans votre vie, c'est que vous devenez maître de vous, vous commandez. Parce que vous connaissez votre destination, vous commandez, vous prenez des initiatives de foi, vous êtes spirituel, c'est-à-dire c'est votre esprit qui a le contrôle. Votre âme est soumise à l'esprit, donc votre âme, votre intelligence, tout ça, c'est renouvelé par l'esprit. Vous n'êtes plus dans la mesure du raisonnablement humain. Vous avez atteint le niveau du divin sur terre. Vous allez me dire, et frères et sœurs, Jésus, sur la terre, était un être humain divin, sur la terre. Et c'est à cela que nous sommes destinés à être, sur la la terre, notre foi, elle doit donc grandir au point où nous devenons capables de nous occuper des affaires de notre Père. Un nourrisson ne peut pas s'occuper des affaires de son Père, complètement dépendant. Agir en son nom, sachant que vous êtes revêtu de son autorité. Celui qui est revêtu de son autorité, c'est celui qui commande au nom de Jésus. Aux montagnes, aux démons, aux éléments. C'est celui qui s'est d'abord soumis quand il lui était commandé à lui. D'accord ? Quand Marc est arrivé dans l'armée, il n'a pas commencé de général. N'est-ce pas ? D'abord être confiant, il faut d'abord apprendre à obéir. Puis après, eh bien, on peut monter en grade. Eh bien, c'est la même chose avec Dieu. Si tu ne sais pas obéir maintenant, comment veux-tu ? Quand tu vas commander aux démons, ils vont te rire à la figure. Dieu ne vous permettra pas de commander aux démons, à la maladie, aux éléments, si vous n'êtes pas vous-même soumis de cœur lorsque lui-même, votre Dieu, il vous commande. C'est le pourquoi des épreuves de David. Avant d'être roi, il devait apprendre la soumission. L'humilité précède la gloire. C'est toujours comme ça. Et David aimait Dieu. Et il en arriva au point dans sa souffrance où il a compris la providence de Dieu, où il a compris le dessein que Dieu lui réservait. Il savait que le prophète l'avait oint pour être roi. Mais nous savons ce que Jésus a fait pour nous dans la Bible. Nous le savons. De même, comme David, nous savons, nous, ce que Dieu a fait pour nous. À quoi il nous appelle? Nous le savons. David le savait. David savait qu'il n'échapperait pas au dessein de Dieu. Nous savons que nous n'échapperons pas au dessein de Dieu. C'est écrit. Il savait que personne n'avait le pouvoir d'empêcher le dessein de Dieu. Nous savons que personne n'a le pouvoir d'empêcher le dessein de Dieu. Ce qui est écrit au sujet de ses enfants, c'est pour nous. Nous nous identifions à cette parole. Un jour, j'étais au Burkina et je revenais d'une série d'évangélisations avec Nicolas. On était sur la route et tout à coup, une douleur m'a pris dans le ventre. Mais quelque chose d'épouvantable, je me suis mis à vomir, j'étais mal. C'était un vendredi. Et il a fallu que j'aille à l'hôpital, parce qu'il ne voulait pas m'emmener, même s'il savait, il ne voulait pas, il avait peur de m'emmener à l'hôpital. Et là, ils ont vu que j'avais ce qu'on appelle des calculs rénaux, c'est comme ça qu'on dit. C'est très douloureux. Mais maintenant, j'avais une réunion, je crois que c'était le lundi, j'avais un séminaire qui commençait dans un village. Or, dans ce village, pas moyen de communiquer avec eux, pas de téléphone, rien du tout, pas d'électricité. Or, ça, c'était le vendredi. Le jeudi, jour avant ma crise, Dieu a parlé à une prophétesse, un jour donc avant que ça m'arrive, disant que le diable voulait ma destruction et qu'il allait m'attaquer et qu'il fallait se mettre à jeûner et à prier pour moi. Pour dire oui, bon ben Dieu il aurait très bien pu se débrouiller tout seul et puis éviter que le diable m'attaque et puis dissoudre ce caillou tout seul, tu vois. Non. Il y a un monde spirituel qui s'oppose à Dieu. Et pour ce faire, ils s'acharnent contre nous. Mais le monde spirituel s'en fout de vous. Vous êtes rien. Ils ne s'intéressent pas à vous. C'est à Dieu que le monde spirituel s'intéresse. C'est à Dieu que les démons s'intéressent. Et quand ils s'acharnent contre vous, vous allez comprendre ce qui se passe. Dieu pourrait très bien s'en sortir tout seul de tous les problèmes. Mais il le veut dans son dessein, dans son plan, dans sa volonté. Il veut que nous ayons part au combat, afin que son nom soit glorifié, afin que son nom soit sanctifié devant le monde des esprits déchus. Voilà pourquoi il permet que des choses désagréables nous arrivent, afin de pouvoir nous appeler à la prière, c'est-à-dire au combat, afin de pouvoir remporter une victoire qui glorifie le nom de Dieu, parce que quand nous prions et que nous sommes exaucés, Dieu est glorifié devant les démons. Les démons, les autorités, les principautés dans les lieux ténèbres connaissent la sagesse infiniment variée de Dieu par nous qui sommes des gens de foi actifs. Amen. Les politiques contre des esprits, ben, le vote spirituel. Parce qu'on ne peut pas lutter contre des esprits avec la chair, avec des raisonnements, avec des gris, je ne sais pas quoi. Au début de ma vie avec le Seigneur, même avant déjà, quand je priais, j'étais exaucé. J'avais trouvé Matthieu 18, 19, là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, quoi qu'ils demandent, je le ferai. Avec des copains, on se mettait à prier, on était exaucé. Avant même dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse avait dit pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en lui frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écrit ces choses comme souvenir dans le livre. Pourquoi? Pour qu'on dise, c'était formidable à cette époque-là. C'était bien, on avait bien voulu dire à cette époque-là, c'était bien à cette époque-là. Dieu veut que ces choses soient écrites afin que nous puissions en prendre note et conformer notre vie. Nous sommes un peuple, un chemin, comme l'a écrit Dominique dans son chant. Qui va être mon Aaron? Qui va être mon Hur? On a un chant qui dit aussi, ne pensez plus au malheur, ayez la paix dans vos cœurs. Soyez des gens spirituels, ne pensez pas à vos malheurs, ne pensez pas à vos malheurs. Ça, c'est des attaques de l'ennemi pour faire diversion, pour vous détourner, pour vous empêcher de garder le bon moral et la foi et de faire l'œuvre que Dieu nous a confiée. C'est ne pensez pas au malheur, on l'a chanté des milliers de fois. Maintenant, ça commence à prendre du relief. Hein. Ne pensez pas au malheur, ayez la paix dans vos cœurs, ayez la paix dans vos cœurs. Soyez des gens spirituels, soyez des gens conduits par l'esprit et non pas par la chair. Être conduit par la chair, c'est être conduit par les problèmes. C'est réagir par rapport aux limitations. C'est agir par rapport aux impossibilités. Une personne conduite par l'esprit, elle est spirituelle, elle gagne. Alors soyez avec moi, mes frères et sœurs. Josué, lui, il était dans la vallée. Vous allez me dire, il n'était pas avec Moïse, il était dans la vallée. Oui, il était dans la vallée, il était loin de Moïse. Moïse était sur la montagne, Josué était dans la vallée. Après, il était loin, il était dans la communauté avec Moïse. Mais il était dans la communion avec Moïse parce que lui, il se battait dans le camp de Moïse contre Amalek. Il était donc avec Moïse, même s'il n'était pas à côté. Mais chacun sa place. Aaron et Hur, ils étaient avec Moïse. Ils soutenaient ses bras. Ils ont l'idée de lui mettre une pierre pour qu'il puisse s'asseoir. Ils ont chouchouté le serviteur de Dieu. Chouchoutez-moi. Aaron et Hur étaient avec Moïse, là tout près de lui. Et le peuple était dans la mêlée, le peuple. Même pas les noms. Ils étaient eux, ils étaient là avec, dans le camp de Moïse. Pas sur la montagne, mais ils étaient dans le camp avec Moïse. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ils étaient avec Moïse? Parce que Dieu était avec Moïse et il le savait. Il le savait tous. Mais de temps en temps, il râlait. Mais quand même, au fond, il le savait. Et vous savez que je suis avec Dieu. Et si vous en doutez, mais retournez chez Amalek, je vous en supplie. Ils se plaignent tous chez Amalek qu'ils sont en déperdition de public. Alors, allez-y, ça leur fera du public. Nous voulons continuer avec notre Dieu. Amen. Et nous progressons, nous avons des progrès en progrès. Cette année, c'est des milliers de personnes qui se sont converties. Des centaines qui ont été guéries au travers de nos prières, de nos actes de foi et de nos dons semences financières. Voilà le résultat. Quand on prie, quand vous m'aidez à tenir les mains en l'air, d'une manière ou d'une autre. Alors, si vous comprenez le dessein de Dieu, faites ce que vous savez devoir faire. Comme tout à l'heure, vous savez ce que vous devez faire. Alors faites-le. Et faites-le avec foi. Faites-le avec joie, sans murmurer et avec la démesure qu'inspire l'amour. Amen. Merci Jésus. Merci pour cette prédication que tu m'as donnée hier dans mon bureau. Merci Seigneur pour l'habilité que tu m'as donnée pour la communiquer à mes frères et sœurs. Merci pour l'intelligence que tu as donnée à mes frères et sœurs, à tous ceux qui écoutent ce message. Afin que les choses, si cette prédication puisse changer les choses, changer les attitudes, que chacun devienne des gens consacrés, spirituels, authentiques, agissant avec la démesure qu'inspire.